Vous écoutez, on lit pour vous.
La femme de lettres qui avait soif d'émancipation. Un texte de Laila Malouf et Jean Siag, paru le 18 mars 2025 dans la presse. Denise Boucher, 1935-2025. Elle a enflammé les esprits dans un Québec en pleine révolution féministe, défier la censure avec son œuvre phare, Les Fées en soif, et dédier sa vie à l'écriture. La poète, dramaturge et auteure Denise Boucher s'est éteinte mardi 18 mars 2025, à l'âge de 89 ans. L'auteur-compositeur-interprète Dan Bigra lui a rendu hommage mardi sur sa page Facebook. Ton aide médicale à mourir s'est passée aujourd'hui à 14 heures, dans la musique, l'amour et le respect. Tu m'as demandé de te chanter une chanson pendant que tu respirais ton dernier air. J'ai choisi notre chanson, dont tu avais écrit le poème « Pour vous aimer », qui se terminait par cette phrase « La longueur de la liberté ». C'est une journée triste et belle à la fois, témoigne Dan Bigra. Tu pars à tes propres conditions, tes propres termes. C'est ça, la dignité. Tu m'as dit la phrase la plus vraie que j'ai jamais entendue. Tu m'as dit, comme intellectuel, j'ai toujours cru que c'était la tête qui menait la barque. Aujourd'hui, je comprends que c'est le corps. Et c'est ça. La longueur de la liberté. En entrevue avec la presse, Dan Bigra a raconté les derniers moments de la poète et auteure qui a été admise au CHUM il y a quelques semaines à la suite de problèmes respiratoires. Elle était bien entourée, nous a-t-il confié. Il y avait ses proches, mais aussi plusieurs artistes. On a chanté, on a ri. Tout le monde l'aimait. C'était un beau moment, même si c'était triste. Dan Bigra a connu Denise Boucher en 1994, lors de la création de l'album « Jézabelle » qu'il a réalisé, dont elle a écrit les paroles sur la musique de Jerry Boulet. Denise avait la tête dure, mais ça lui a bien servi. Elle a ouvert la voie à beaucoup de femmes qui étaient cantonnées dans leur cuisine. C'était une révolutionnaire qui a utilisé des mots qui faisaient du sens. Par sa poésie, Denise Boucher est parvenue à s'imposer hors des frontières du Québec, participant à des festivals internationaux, donnant des conférences et faisant des lectures aussi bien en Europe qu'au Mexique et aux États-Unis. Outre Dan Bigra, elle a également écrit des chansons pour Pauline Julien, Louise Forestier, Jerry Boulet et Chloé Sainte-Marie. Céline Marcotte, directrice générale du Théâtre du Rideau Vert, a aussi publié ce message sur la page Facebook de l'institution. Femme libre, inspirée et inspirante, chère Denise Boucher, vous resterez pour moi une alliée, une complice féminine et féministe, un modèle. Succès incontesté au Rideau Vert en 2018, vos fées en soif n'ont pas pris une ride, créée dans la controverse en 1978 au Théâtre du Nouveau Monde. Cette réussite a été une grande joie pour vous. Les comédiennes et musiciennes en gardent, j'en suis sûr, un souvenir indélébile. Vous faites partie de la grande famille du Rideau Vert et nous en sommes fiers. Lors de l'apparition de Boîte d'images en 2016, son 7e recueil qui rassemble plus d'une centaine de ses poèmes et pour lequel elle a décroché le Grand Prix Québécois, elle avait dit de la poésie qu'elle était « une forme de psychanalyse sauvage ». « On fait un choix quand on écrit », disait Denise Boucher. « On peut faire le choix de la désespérance, que la vie, c'est de la merde ». C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Tant qu'à vivre, autant aimer ça. Un poème, c'est une chose qui est donnée « Si tu t'y abandonnes, poursuivait-elle, ça ressemble à l'amour. Tu ne peux connaître l'amour que si tu t'y abandonnes. Il y a l'appel des mots, des rythmes et une histoire qui commence. Quelque chose se passe et c'est fantastique. Parfois, on est surpris par la matière comme le peintre avec les couleurs, les formes. » D'enseignante à écrivaine. Née le 12 décembre 1935 à Victoriaville, Denise Boucher entame une carrière en enseignement après des études à Sherbrooke en 1953 et s'y consacre jusqu'en 1961. Mais l'appel de la création la pousse à étudier la diction et l'art dramatique au Conservatoire La Salle. Elle écrit ensuite pour divers journaux et magazines dans les années 1960 et 1970, dont La Presse. Cette époque de sa vie est par ailleurs marquée par des amitiés qui lui vaudront d'être ciblées par les perquisitions qui ont entouré la crise d'octobre. En novembre 1970, Denise Boucher, alors journaliste, reçoit la visite de deux policiers à son appartement du plateau Mont-Royal quelques semaines après l'arrestation de son ami, Gaston Miron. Ils sont entrés, ont saisi ma Remington, mes papiers, mes poèmes, et m'ont embarqué, avait-elle raconté à la presse en 2010, en revenant sur sa détention à la prison de la rue Folhomme, puis à Tanguay. Libérée en décembre, elle ne comprendra que bien plus tard avoir été arrêtée à cause de ses liens avec Pierre Vallière et Mario Bachand. Dans « Une voyelle », son autobiographie parue en 2007, elle revient avec poésie, comme toujours, sur ses amitiés qui ont marqué sa jeunesse. « Parfois, je cherche un mot et je voudrais téléphoner à Miron ou à Shepherd pour le retrouver. » Je ne me suis pas habitué à leur absence. Leur voix résonne encore comme des coups de feu, surtout quand une brise légère fait danser les rideaux. Elle y rappelle également, entre autres souvenirs d'une vie mouvementée, remplie de péripéties et de voyages, ses moments partagés avec Gérald Godin et Pauline Julien, son bref séjour dans une prison de Beverly Hills à la fin des années 1960, son aventure passionnelle avec un Black Panther, puis sa résignation à assumer sa solitude et sa décision de se consacrer enfin à l'écriture. Je serai vieille fille. L'idée me plaisait. Seule et libre de coucher avec des livres que je pourrais ouvrir à n'importe quelle heure, avait-elle écrit. Vous écoutez La femme de lettres qui avait soif d'émancipation, un texte de Laila Malouf et Jean Siag, paru le 18 mars 2025 dans La Presse. Le succès à travers le scandale. Ses premiers livres sont publiés dès la fin des années 1970. Le recueil « Retaille », écrit avec Madeleine Gagnon et Cyprine. Mais c'est sa pièce de théâtre « Les fées ont soif » qui lui fait connaître le succès à travers la polémique qu'elle a provoquée en 1978. La pièce, qui met en scène trois archétypes de femmes, la mère, la sainte et la putain, Madeleine, qui joue notamment une scène de viol, a causé à l'époque de vives manifestations devant le Théâtre du Nouveau Monde, TNM, où elle a été créée. Des groupes religieux ont crié au blasphème, soutenant que la pièce avait été inspirée par le diable, demandant l'annulation des représentations et la censure du texte. Les subventions du TNM avaient même été retirées par le Conseil des arts de Montréal. Lors d'une conférence de presse en juin 1978, Denise Boucher s'était néanmoins réjouie du scandale. « Je crois que je jouis », dit Denise Boucher en conférence de presse en 1978. « C'est une chance extraordinaire de connaître ainsi la censure officielle. Ça permet de porter le débat sur la place publique. » Le directeur artistique du TADEB, Jean-Louis Roux, avait tenu bon à travers la tempête, et ce, malgré une injonction provisoire interdisant la publication, la mise en vente et la production sur scène du texte au Québec. Je suis convaincu que le pire excès commis au nom de la liberté d'expression est préférable à la plus petite répression, avait-il déclaré à Radio-Canada en décembre 1978. La pièce deviendra l'un des plus grands succès de la compagnie et sera même jouée à l'étranger en d'autres langues, puis reprise notamment 40 ans plus tard au Rideau Vert. Cela a été un cadeau des dieux aussi. J'ai été invité partout et j'ai commencé à voyager. C'est mon conte de fées à moi, avait dit Denise Boucher à la presse en 2016, se remémorant ses souvenirs. Dans la foulée du décès de Denise Boucher, Marianne Alpin, présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, a déclaré par voie de communiqué « Avec les fées, on soif ». Denise Boucher a non seulement bouleversé le théâtre québécois, mais elle a aussi inspiré des générations de femmes à revendiquer leur liberté. Patriote, poète, parolière, elle était puissante et percutante partout. Faire rayonner les écrivains québécois à l'étranger. Son implication au sein de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, l'UNEC, notamment à titre de présidente de 1998 à 2000, lui a par la suite permis de défendre les droits d'auteur, mais surtout de faire rayonner les écrivains québécois à l'étranger, un dossier qui lui tenait à cœur. Au terme de son mandat, elle avait d'ailleurs confié à la presse sa fierté d'avoir accompagné des auteurs comme Yves Beauchemin, Dany Laferrière et Monique Proulx au Festival new-yorkais des auteurs québécois, ainsi que des poètes à la première édition du Printemps des poètes en France. En 2011, à l'âge de 75 ans, elle a publié son premier roman, « Au beau milieu, la fin », qui évoque la vieillesse et ses mots. « Si j'écris, c'est parce que je veux que personne ne parle en mon nom », avait-elle dit à la presse à sa parution. Pour elle, la vieillesse était une aventure prévisible, mais pleine d'imprévus, imageant avec philosophie cette étape de la vie. Le bobo, le pli, tu ne le vois jamais venir, mais on apprend à vivre avec ça, avec les morts. Il y a une cible, la mort. Et jusque-là, c'est un vol en avion dont on ne peut descendre. On ne peut pas, comme en voiture, se tasser sur le côté pour se reposer. Tu planes jusqu'à ce que ça arrête. C'était « La femme de lettres qui avait soif d'émancipation », un texte de Laila Malouf et Jean Siag, paru le 18 mars 2025 dans La Presse.
Donald Trump, l'homme d'affaires honni des marchés. Un texte d'Alex Fontaine paru le 10 mars 2025 dans Le Devoir. On s'attend à ce qu'un président homme d'affaires soit l'ami des marchés. Or, ceux-ci semblent en désaccord avec les décisions prises par Donald Trump depuis son intronisation. Le président américain ne pourra pas en faire abstraction indéfiniment, préviennent des experts. Après une semaine tumultueuse, les bourses nord-américaines ont de nouveau clôturé en forte baisse lundi 10 mars 2025. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté respectivement de 2,08%, de 2,70% et 4%. Cette dégringolade fait suite à une entrevue diffusée sur Fox News dimanche dans laquelle M. Trump a évité de se prononcer sur les risques de récession aux États-Unis. Je pense que dans son premier mandat, il se souciait de ce que pensaient les marchés et il prenait beaucoup de décisions en fonction de ce qu'il disait, observe Arthur Silve, professeur d'économie à l'Université Laval et membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Ça a l'air d'être moins le cas aujourd'hui, mais qu'il le veuille ou non, Donald Trump ne peut pas gouverner sans les marchés, résume M. Silve. Il s'impose à peu près n'importe quel gouvernement. J'ai l'impression qu'il a aussi affiné ses objectifs qui auparavant étaient économiques et qui maintenant sont centrés sur une petite partie de l'économie dont les marchés ne rendent qu'imparfaitement compte, ajoute-t-il. C'est la fameuse oligarchie dont parlait Joe Biden. Ça veut dire que ceux qu'on va défendre ne sont pas les marchés en tant que tels, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises en concurrence les unes avec les autres, mais qu'on va se focaliser sur les entreprises qui sont en situation de monopole et dont le lien avec la politique est particulièrement fort, poursuit M. Silve. D'ailleurs, si les investisseurs en venaient à se détourner des États-Unis pour placer leurs billes en Chine, au Canada, au Mexique ou en Europe, par exemple, il va immédiatement changer ses politiques parce qu'on ne peut pas avoir une trajectoire à long terme viable dans un pays sans avoir des investissements, dit l'expert. La question est, quand est-ce qu'il va prendre en compte l'intérêt des marchés avant de prendre en compte l'intérêt de ses amis oligarques? Pour l'amour du protectionnisme, toute cette question de tarifs va à l'encontre de la théorie économique, relève Sébastien Betermi, professeur de finance à l'Université McGill. Les annonces et les volte-face de la Maison-Blanche, pour les entreprises, c'est très dur parce qu'elles ont besoin d'une vision à long terme et de stabilité. Et ça, ça fait plusieurs mois qu'on est exactement à l'encontre de ça. Les décisions du président américain ont été prises avec une vision selon laquelle le protectionnisme est une bonne chose pour l'économie américaine, selon M. Bétermier. Clairement, le marché ne pense pas ça. Il est aussi question de mathématiques. Les marchés ne sont pas constitués de personnes qui prennent des décisions sur la base de leur appréciation du président, explique Arthur Silve. Ils utilisent plutôt la valeur espérée des flux futurs des entreprises pour en dicter la valorisation. Et dans le cas qui nous intéresse, la chute des principaux indices boursiers montre que les marchés savent que c'est une décision, pour reprendre les mots du premier ministre Trudeau, qui est stupide, énonce-t-il. Des conséquences de l'incertitude. Je pense qu'il n'y a pas un investisseur aujourd'hui qui n'a pas perdu confiance, soutient M. Silve. On sait qu'on est dans une période d'incertitude. On sait que les engagements de Donald Trump n'ont aucune valeur et que demain, on peut avoir une modification abrupte d'une politique quelconque. Malgré tout, il est important pour un certain nombre d'entreprises d'avoir accès au marché américain. D'ailleurs, les entreprises canadiennes qui exportent la plus grande partie de leur production aux États-Unis pourraient évaluer la possibilité d'investir directement sur le territoire américain, indique Sébastien Betermier. Autre point qui nuit aux investissements des entreprises à long terme, la perspective d'une recrudescence de l'inflation due aux politiques trumpiennes. Le marché des obligations peut avoir un rôle important à jouer pour calmer les ardeurs du président dans sa guerre commerciale, affirme le spécialiste. Le coût de la dette pourrait potentiellement augmenter de façon significative. L'incertitude même est nocive pour l'investissement. Même dans le scénario où rien ne se passait au final, l'incertitude que nous vivons tous les jours aura un impact nocif réel sur l'économie et sur l'investissement, conclut M. Betermier. En d'autres mots, le mal est fait. C'était Donald Trump, l'homme d'affaires honni des marchés, un texte d'Alex Fontaine paru le 10 mars 2025 dans Le Devoir.
Le yaourt a un grand potentiel contre le cancer du côlon, révèle cette étude. Un texte de Morgane Petit, paru le 28 février 2025 dans Science et Vie. Nous avons presque tous des yaourts dans notre réfrigérateur. Ce produit laitier à base de lait fermenté est riche en différents types de bactéries lactiques. De plus en plus d'études vantent les mérites de cet aliment pour notre santé. Qu'en est-il? Un petit yaourt pour le dessert? Pas envie? Pourtant, ce produit laitier obtenu à base de lait fermenté serait un allié de poids pour notre santé. Protection contre le surpoids, le diabète de type 2, voire même certains types de cancers, la liste est longue. De plus en plus d'études mettent en effet en avant les qualités et les bienfaits de cet aliment. Alors, est-ce vrai? Faut-il se jeter sur le rayon frais des supermarchés pour les dévaliser? Pour commencer, c'est quoi en fait un yaourt? Le yaourt, qu'on appelle aussi yogourt, est un produit laitier obtenu à base de lait qui a fermenté sous l'action de différentes bactéries lactiques. Les plus connues sont Lactobacillus delbrueckii bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Ces bactéries transforment le sucre du lait, le lactose, en acide lactique. Pour réaliser cette transformation, les bactéries doivent rester actives dans le yaourt. Ce dernier n'est donc pas stérilisé. Historiquement, ce produit vient de Turquie. Aujourd'hui, il est très populaire et sa production est devenue industrielle dans la seconde moitié du 20e siècle. Il est ainsi devenu un produit de grande consommation dans de nombreux pays du monde. La France ne fait clairement pas exception. En 2023, 8 Français sur 10, c'est-à-dire 77 % de la population, déclarent consommer des yaourts. Plus remarquable encore, cette consommation s'établit à 4,5 produits par semaine. Les yaourts ont en effet très bonne réputation. On les considère comme bons pour la santé et donc comme des aliments essentiels. En outre, les Français apprécient de les consommer. Et c'est tant mieux, car ils sont essentiels pour une alimentation équilibrée. Des produits indispensables pour l'alimentation. Les yaourts, et plus largement les produits laitiers, sont indispensables tout au long de la vie. C'est particulièrement vrai pour les enfants, au moment de leur croissance, et pour les personnes âgées. Ces aliments apportent en effet du calcium, indispensable pour la fabrication de l'os et le maintien de sa solidité. Grâce à la vitamine D, un autre nutriment essentiel, le calcium est absorbé par l'organisme. Cela permet de fabriquer le tissu osseux, de le maintenir et aussi de prévenir certaines maladies, comme l'ostéoporose. Le calcium est également important pour d'autres mécanismes comme la contraction musculaire ou la coagulation sanguine. Au vu de l'importance de ces aliments, on recommande ainsi de consommer 2 laitages par jour pour les adultes avant 55 ans. Après 55 ans, il vaut mieux passer à 3 ou 4 produits laitiers par jour. En revanche, gare au fromage. Cet aliment est riche en gras et en sel et peut donc avoir des effets nocifs sur la santé, notamment cardiovasculaires. On évite également d'ajouter du sucre au laitage. Crème fraîche et beurre, bien qu'issus du lait, ne sont pas considérés comme des produits laitiers. Ils sont en effet riches en graisse et donc classés comme des matières grasses. Les régimes véganes, c'est-à-dire sans produits issus de l'exploitation animale, se développent. Mais sans consommation de produits laitiers, comment subvenir aux besoins de l'organisme en calcium? Certains végétaux en offrent, comme les fruits frais ou les céréales et légumineuses. Cependant, plusieurs études précisent que cet apport en calcium n'est pas toujours suffisant par rapport au calcium présent dans les produits laitiers. Les personnes avec un régime vegan doivent donc contrôler leur taux de calcium régulièrement et se supplémenter si nécessaire. Les bienfaits du yaourt pour la santé. La première chose à noter concernant les yaourts, c'est qu'ils sont tout à fait adaptés à l'alimentation des personnes avec une intolérance au lactose. En effet, les bactéries lactiques possèdent une enzyme, une lactase, qui dégrade le lactose et qui est actif tout au long du processus de digestion. Or, c'est bien le déficit en lactase qui engendre les désagréments chez les personnes intolérantes au lactose. Elles peuvent ressentir des ballonnements, souffrir de diarrhée ou de douleurs abdominales. Les bactéries des yaourts, en produisant continuellement leur lactase, évitent ces inconforts. Les bactéries lactiques, grâce à leurs ferments, sont des probiotiques. Il s'agit de micro-organismes vivants qui, ingérés en quantité adéquate, vont apporter un bénéfice au fonctionnement de notre organisme. Les probiotiques des yaourts améliorent les troubles fonctionnels intestinaux, ils réduisent la sévérité des diarrhées infectieuses et exercent un effet favorable sur la diarrhée post-antibiothérapie. Ils améliorent également de 5 à 15 l'éradication d'une bactérie particulière, Helicobacter pylori. Or, cette dernière favorise l'émergence d'ulcères gastro-duodénaux, de cancers gastriques et a même un lien avec la maladie de Parkinson. Le yaourt possède également des effets favorables sur l'immunité. Il augmente le taux et l'activité de différents acteurs de l'immunité cellulaire. Des études ont ainsi observé une diminution des épisodes infectieux bénins, tels que des rhumes, en particulier chez les personnes âgées. Les yaourts peuvent également optimiser la réponse vaccinale et diminuer les risques d'allergie chez les enfants à risque. La consommation de yaourts a également un effet sur le surpoids et l'obésité. Elle est en effet associée avec une perte de poids significative, contrairement à la consommation des autres produits laitiers. Le yaourt maigre et le lait entier diminuent le risque de survenue de syndromes métaboliques, comme le diabète de type 2. Une consommation d'environ 90 grammes par jour de yaourt a également montré une réduction très significative du risque de cancer colorectal. Comment ces produits laitiers agissent-ils sur la santé? Les mécanismes expliquant les effets positifs du yaourt sur la santé ne sont pas encore tous bien connus. Pour ce qui est de l'action sur le poids, cela pourrait notamment venir du calcium. Ce dernier aide en effet à l'élimination par les selles des lipides. Les protéines laitières peuvent également diminuer la sensation de faim. Le microbiote joue très certainement un rôle également. Le rôle protecteur du yaourt contre le cancer colorectal pourrait notamment provenir des propriétés antitumorales de cet aliment. C'est particulièrement vrai sur un sous-type de cancer colorectal impliquant une bactérie particulière, Bifidobacterium. Ces bactéries se trouvent dans l'intestin humain et, paradoxalement, dans le yaourt. Dans 30 % des cas de cancer colorectal, elles s'incorporent dans le tissu tumoral et conduisent à une forme particulièrement agressive du cancer. Leur incorporation dans les tumeurs se ferait par leur passage via une barrière intestinale fragilisée. Pourtant, c'est bien la présence de Bifidobacterium dans le yaourt qui protégerait contre les risques de développer ce type de cancer colorectal. La bactérie présente en effet des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et aide à activer le système immunitaire. Ceci aiderait notamment à maintenir l'intégrité de la barrière semi-perméable de l'intestin. Contre-intuitivement, une augmentation de cette bactérie dans notre organisme, via la consommation de yaourt, aiderait au maintien de la barrière intestinale et éviterait donc la fuite de la bactérie vers les tumeurs. Alors, faut-il dévaliser le rayon frais du supermarché? En réalité, tout est une question d'équilibre. Les études le montrent. La consommation régulière de yaourt, suivant les recommandations dont nous avons parlé préalablement, ont des effets bénéfiques. Pour autant, c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. Et surtout, il faut être vigilant sur ce que l'on consomme. Tous ces bénéfices fonctionnent avec les produits fermentés, comme le yaourt, à condition de ne pas avoir d'ajout de substances, additifs, sucre, matières grasses. Les bienfaits concernent donc principalement le yaourt nature. dans le rayon frais, on trouve tout un tas de produits qui vantent leurs mérites, comme les yaourts enrichis en bifidus actifs. Cependant, si on regarde la liste des ingrédients, on observe beaucoup d'additifs qui finalement réduisent les effets bénéfiques, voire même peuvent présenter un danger pour la santé, certains additifs étant controversés. Finalement, il vaut donc mieux consommer régulièrement des yaourts nature ou d'autres produits fermentés, comme le kéfir, au sein d'une alimentation variée et équilibrée. C'est ce qui contribue à réduire les risques de pathologies. En outre, cela ouvre la voie à la médecine préventive basée sur l'alimentation. C'était « Le yaourt a un grand potentiel contre le cancer du côlon », révèle cette étude. Un texte de Morgane Petit, paru le 28 février 2025 dans Science et Vie.
La femme qui veut faire revivre le mammouth et le dodo, un texte de Dino Grandoni du Washington Post, paru le 15 mars 2025 dans la presse. Dallas, Texas. Le laboratoire où la résurrection des espèces éteintes se prépare est un bâtiment anonyme dans un parc industriel à côté d'un stationnement de remorque. Là, au milieu d'incubateurs et de microscopes, Beth Shapiro et son équipe tentent un exploit tout droit sorti de la science-fiction, faire revivre le dodo, un oiseau éteint depuis 3 siècles. De nombreux scientifiques dans le monde tentent de ramener à la vie des animaux disparus, un objectif qui se rapproche grâce à des avancées récentes en édition génomique. Madame Shapiro, une sommité mondiale dans la découverte et le décodage de souches génétiques d'animaux éteints, a déjà fait plus que quiconque pour révéler les secrets du dodo. Cet oiseau incapable de voler, qui s'est éteint au XVIIe siècle, est depuis devenu un symbole et a incité des générations entières à protéger les espèces menacées de disparition. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Madame Shapiro faisait partie des nombreux sceptiques de la désextinction et ne voyait pas l'intérêt de faire revivre le dodo. Pourquoi ressusciter un animal éteint qu'on ne saurait pas où mettre? Aujourd'hui, contrairement au dodo, Madame Shapiro s'adapte. En 2024, elle a troqué le confort de sa chaire universitaire contre la direction scientifique de Colossal, une société biotechnologique de Dallas qui a levé 435 millions de dollars en financement. Le monde et la technologie évoluent. En tant que scientifique, il faut s'adapter, dit-elle en enfilant sa blouse blanche, ajoutant que son opinion sur ce qui est possible a beaucoup évolué. Mais Madame Shapiro voit plus loin que le dodo. Ses recherches pourraient faire revivre des espèces disparues, mais elles pourraient aussi sauver des animaux aujourd'hui au bord du gouffre. Extinction. Jeune, Madame Shapiro ne pensait pas devenir chasseuse d'ADN. Elle s'est inscrite à l'Université de Géorgie, l'État où elle a grandi, avec l'intention de devenir journaliste. Mais un stage de 2 mois en géologie et en anthropologie, durant lequel elle a été amenée à camper dans divers parcs nationaux, lui a donné envie de creuser la terre. Boursière Rod à l'Université d'Oxford, elle a travaillé au laboratoire d'Alan Cooper, pionnier de l'étude de l'ADN ancien. « Il m'a dit, se souvient-elle, si tu te joins à mon laboratoire, tu pourras aller en Sibérie. » J'ai pensé, quelle excellente opportunité. Au lieu d'étudier les animaux disparus grâce à leur squelette fossilisé, comme les paléontologues, les chercheurs en ADN ancien arpentent les musées à la recherche de spécimens et les toundras lointaines à la recherche d'ossements. Ils prélèvent des souches de matériel génétique afin de percer les secrets des animaux préhistoriques. Dans ce domaine en effervescence, Madame Shapiro a commencé à se faire un nom. C'était un domaine très masculin. Et il y avait pas mal d'égo, explique Duane Froese, un spécialiste des sciences de la Terre de l'Université de l'Alberta, qui s'est rendu au Klondike avec Madame Shapiro pour trouver des os d'espèces éteintes de bisons, d'ours, de chevaux et de mammouths. Elle était le ciment qui maintenait unis des équipes scientifiques, souvent marquées par des désaccords, dit-il. C'est une rassembleuse. Elle est très douée pour ramener tout le monde. Au cours de sa carrière, Madame Shapiro a cherché des vestiges d'ADN du Grand Nord aux îles tropicales. Mais c'est à Oxford qu'elle a eu son premier grand succès. Chaque jour, en allant au laboratoire, je passais devant un squelette de dodo, raconte-t-elle. Cet archétype de l'extinction était là, sous mes yeux, chaque fois. Le musée des sciences naturelles d'Oxford a aussi la tête et les pattes d'un dodo, le seul spécimen en chair et en os connu de cette espèce. Madame Shapiro a eu l'idée de demander la permission de prélever un échantillon d'os. Le musée a refusé. Le spécimen d'Oxford est célèbre. Personne ne sait exactement comment il a été acquis. On pense qu'il a inspiré le dodo que Lewis Carroll a imaginé dans Alice au Pays des Merveilles, celui qui préside une course absurde où tout le monde gagne. Dans la vraie vie, le dodo a perdu. Après la colonisation de l'île Maurice par les Hollandais au XVIIe siècle, il a fallu moins de 3 décennies pour que s'éteigne cet étrange animal qui ne pondait qu'un œuf par an. Cet oiseau pâteau et incapable de voler ne craignait pas les humains. Tué à coups de bâton, c'était un repas rapide. Les rats débarqués des bateaux ont mangé les œufs. Disparu, le dodo a laissé derrière lui une énigme. Quel type d'oiseau était-ce? C'était un véritable mystère, souligne Madame Shapiro. Après avoir fait ses preuves à Oxford, grâce à ses travaux sur l'ADN d'autres oiseaux, Madame Shapiro a pu prélever un fragment d'os de patte. Les résultats ont été publiés dans la revue Science. Le dodo était un cousin lointain et surdimensionné du pigeon. Vous écoutez La femme qui veut faire revivre le mammouth et le dodo, un texte de Dino Grandoni du Washington Post, paru le 15 mars 2025 dans La Presse. Évolution. Pour Madame Shapiro, l'ADN, c'était l'aventure, un moyen de remonter dans le temps. C'était comme les anciens explorateurs, mais à l'époque moderne, dit-elle. Elle a poursuivi sa carrière à l'Université d'État de Pennsylvanie, puis à l'Université de Californie, à Santa Cruz. Chaque fois qu'elle parlait de son travail, les gens voulaient savoir si la recherche allait ressusciter des espèces éteintes. Au début, elle était assez sceptique face à cette idée. Mais bien entendu, elle y pensait. Elle a donné un séminaire à Santa Cruz sur la désextinction, puis a publié un livre intitulé « How to clone a mammouth »,« Comment cloner un mammouth » en 2015. Le titre de son livre est prometteur, mais entre les deux couvertures, elle arrive à la conclusion suivante. Même si cette entreprise pourrait profiter aux espèces menacées d'aujourd'hui, le clonage d'un mammouth est technologiquement impossible, en grande partie parce que personne n'a jamais trouvé de cellules viables dans les mammouths qu'on a retrouvées préservées dans la glace. Et même si un animal éteint pouvait être ressuscité, pensait-elle, il reviendrait dans un environnement changé où il serait inadapté. Ça ne sert à rien de ramener le dodo, a déclaré Madame Shapiro au Wall Street Journal à l'époque. Leurs œufs seraient dévorés par des rats, comme lors de leur extinction. Elle était probablement la plus grande critique de la désextinction, se souvient M. Froese. Tout de même, ses idées avaient évolué durant la rédaction de son livre. Puis elle a rencontré George Church, un généticien de Harvard. Son idée à lui n'était pas de cloner un mammouth, mais de modifier le génome de son plus proche parent, l'éléphant d'Asie. En utilisant les derniers outils d'édition génomique pour modifier le code ADN lié à la forme des défenses, aux poils laineux et à d'autres adaptations au froid, on pourrait créer quelque chose de semblable au mammouth. Lorsque M. Church et l'entrepreneur techno Ben Lam ont lancé Colossal en 2021, Mme Shapiro était encore sceptique. « Il va y avoir des tonnes de problèmes en cours de route », a-t-elle déclaré. M. Lam s'est efforcé de la convaincre, expliquant les objectifs de l'entreprise et lui a laissé du temps. Beth est sans doute la meilleure spécialiste en ADN ancien, a déclaré M. Lam. Puis la pandémie de COVID-19 est survenue. Dans les moments de calme, Mme Shapiro a réfléchi et discuté avec son mari, Richard E. Green, lui aussi professeur à l'Université de Californie, à Santa Cruz, à la question suivante. Est-ce que j'utilise chaque minute de ma journée, tous mes talents et tout mon potentiel pour faire le plus possible? Des extinctions? C'est pourquoi récemment, au laboratoire de Colossal, à Dallas, on trouvait Madame Shapiro aux côtés d'une scientifique s'affairant à percer un petit trou dans un œuf fécondé de pigeon biset, le plus proche parent vivant du dodo. Il s'agissait d'insérer délicatement une aiguille, d'aspirer un peu de blanc d'œuf, puis de découper avec une minuscule paire de ciseaux une ouverture de la taille d'une pièce de 10 cents. Ainsi trépané, l'œuf révélait un réseau de vaisseaux émanant du jaune d'œuf. La manœuvre suivante était d'insérer une autre aiguille dans le cœur battant de l'embryon pour prélever un peu de sang dont on extrairait la clé de la résurrection du dodo, les cellules germinales primordiales. Dans les embryons d'oiseaux, d'êtres humains et de nombreux autres organismes, les cellules germinales primordiales sont celles qui sont destinées à devenir des spermatozoïdes ou des ovules à l'âge adulte. Colossal prévoit d'extraire et de modifier ces cellules en utilisant l'ADN d'un pigeon vivant comme toile de fond et en y insérant les gènes du dodo. Ensuite, l'équipe de Mme Shapiro prévoit d'injecter les cellules modifiées dans le sang circulant d'un embryon en développement. L'oiseau qui sortira de cet œuf sera un pigeon ordinaire, mais avec une différence essentielle. Ses organes reproducteurs contiendront de l'ADN de dodo. Si tout se passe comme prévu, c'est la progéniture de cet oiseau qui sera un dodo, ou du moins une copie proche. Nous n'essayons pas de créer quelque chose d'identique au dodo, explique Mme Shapiro. Nous essayons de créer quelque chose qui puisse se comporter comme le ferait un dodo, d'une manière essentielle et fonctionnelle. Donc, un grand oiseau incapable de voler, qui se déplace en marchant, mange des fruits et dissémine des graines. Outre le dodo, Colossal vise à ramener le mammouth laineux et un marsupial carnivore appelé Thylacine ou tigre de Tasmanie. À ceux qui ont vu Jurassic Park, Madame Shapiro dit que Tyrannosaurus Rex n'est pas sur la liste. Dès qu'on parle d'extinction, les gens pensent tout de suite à Jurassic Park, a dit Madame Shapiro. Mais l'ADN des dinosaures morts il y a des dizaines de millions d'années s'est trop dégradé pour être recousu. Madame Shapiro souhaite utiliser les technologies d'édition génomique de Colossal pour aider les cousins vivants des animaux disparus. Grâce à de l'ADN provenant de spécimens de musées, l'entreprise souhaite corriger des mutations délétères chez le pigeon rose de l'île Maurice, comme le dodo, menacé d'extinction et qui souffre de consanguinité. À partir de ses travaux sur le mammouth, elle souhaite mettre au point un vaccin contre un virus de l'herpès qui tue les éléphants. La pensée de Madame Shapiro sur la désextinction a évolué quand elle a compris à quel point cette technologie sera transformatrice pour les espèces vivantes, dit-elle. Son salaire chez Colossal, précise-t-elle, se compare à celui qu'elle gagnait à l'université. J'ai échangé ma permanence contre des options d'achat d'actions, j'imagine, dit-elle. L'entreprise prévoit faire de l'argent non pas en montrant ses créatures comme dans un zoo, mais en vendant ses technologies, des crédits biodiversité et des crédits carbone. Colossal dit espérer que de futurs troupeaux de mammouths restaureront l'écosystème des prairies, stockant du CO2, le gaz qui réchauffe le climat. Madame Shapiro est prête aussi à adopter le mammouth d'une façon bien personnelle, épidermique même. Elle montre le tatouage de dodo qu'elle s'est récemment fait faire sur un bras. « J'ai toujours voulu un tatouage, mais je n'osais pas, dit-elle. » Maintenant qu'elle en a un, elle pense en ajouter un second, cette fois de mammouth. C'était « La femme qui veut faire revivre le mammouth et le dodo », un texte de Dino Grandoni du Washington Post, paru le 15 mars 2025 dans la presse.
Guerre tarifaire. L'Afrique, une alternative aux États-Unis? Un texte de Nwemsi Njike, paru le 26 mars 2025 dans Ici, Nouveau-Brunswick. Pour son premier voyage à l'étranger en tant que premier ministre du Canada, Mark Carney s'est rendu en Europe, tout d'abord en France et ensuite au Royaume-Uni. Ce voyage avait notamment pour objectif de renforcer des partenariats alors que les États-Unis agissent avec hostilité envers l'économie du Canada. L'économiste Pierre-Marcel Desjardins applaudit cette démarche, mais pense qu'elle aurait dû être initiée depuis longtemps déjà. Il regrette que les pays africains ne fassent presque jamais partie des options. Il faut qu'on regarde du côté de l'Europe, il faut qu'on regarde du côté de l'Asie, mais également des marchés non traditionnels. Et je pense en particulier à l'Afrique francophone, où on a une classe moyenne qui est en croissance, explique-t-il. Nous avons l'avantage du bilinguisme au Nouveau-Brunswick, et non seulement au Nouveau-Brunswick, mais le Canada atlantique, le Canada dans son ensemble, ajoute-t-il. Monsieur Desjardins remarque que certaines idées arrêtées empêchent le Canada de faire efficacement affaire avec les pays africains. On pense que le niveau de vie n'est pas nécessairement élevé, alors que ce qu'on constate, c'est qu'en vérité, il y a une classe moyenne importante, il y a un pouvoir d'achat important, et ça ne va faire qu'augmenter au cours des prochaines années, précise-t-il. Partenariat gagnant-gagnant. Pierre-Marcel Desjardins reconnaît qu'il ne serait pas facile pour le Canada de s'engager en Afrique. En effet, note-t-il, contrairement à d'autres pays du Grand Nord, le Canada a peu de liens historiques avec l'Afrique, en plus de n'avoir aucun lien géographique. Il existe cependant le type de lien qui lui apparaît comme étant le plus important, les liens culturels, en raison de la capacité pour le Canada de parler français et anglais avec certains pays africains, ce qui permettrait, précise-t-il, d'établir des partenariats gagnant-gagnant. Nous avons un savoir-faire, par exemple, dans le domaine des centres de contact à la clientèle. Pourquoi est-ce que certains pays africains ne deviendraient pas des plaques tournantes au niveau des centres de contact à la clientèle? S'interroge-t-il. Ce n'est pas d'aller piller les infirmières dans certains pays africains. Ce n'est pas ça l'idée, dit-il. Le potentiel agricole. Monsieur Desjardins pense que les pays africains ont également des choses à offrir dans le domaine de l'agriculture, notamment. C'est un avis que partage Kassim Doumbia. Originaire de la Côte d'Ivoire, il est le maire de Chipagan, au Nouveau-Brunswick, et est bien placé pour savoir ce que les pays africains auraient à offrir au Canada, et inversement. Il affirme que le Canada peut bâtir des partenariats qui lui permettraient d'accéder aux ressources naturelles africaines utiles dans l'industrie des technologies. Mais pas que! Il y a également le développement de l'énergie hydroélectrique, énergie verte. Il y a de l'expertise. Le Canada pourrait justement accompagner certains pays, explique-t-il. On voit de plus en plus de personnes vivant au Canada qui sont friandes maintenant de nourriture africaine. Donc, il y a également l'agroalimentaire qui peut se développer, dit-il. Les Afro-Canadiens comme moteurs. Adèle Loubaki œuvre précisément dans l'industrie agroalimentaire. Originaire de RDC, elle est la propriétaire de Baobab, une entreprise de Moncton qui vend depuis plus d'une décennie des denrées issues de pays africains. Des clients lui arrivent, indique-t-elle, d'aussi loin que Halifax, Bathurst ou Fredericton, pour faire le plein de marchandises qui proviennent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria ou encore de l'Afrique du Nord. L'immigration internationale est là. On peut manger une bonne poutine râpée le soir, mais après une longue journée de travail, on aimerait avoir une assiette d'une nourriture avec laquelle on a grandi, explique-t-elle. Nos produits, ce sont des produits qu'on ne trouve pas au Canada. Je peux donner comme exemple les feuilles de manioc, la tiéké, la banane plantain. Ce sont des choses qu'on n'a pas au Canada, ajoute-t-elle. Pour Mme Loubaki, le potentiel économique canadien en lien avec l'agroalimentaire d'importation est considérable. Cassie Tano le pense également. Ce résident de Moncton, issu d'une famille de cacao-culteurs de la Côte d'Ivoire, importe du cacao de son pays d'origine, qu'il transforme en chocolat et en tartinade de cacao mélangé à de l'érable. Il a récemment conçu ce qu'il présente comme le premier thé glacé au cacao. M. Tanneau estime que l'écosystème canadien est propice à l'érection d'entreprises fondées sur l'exploitation de matières premières venues d'Afrique, à condition que les politiques publiques accompagnent de telles initiatives. Il y a un potentiel parce qu'il a plein de matières premières, plein de connaissances. Je connais ce que c'est que le cacao, ayant grandi dans ça. Je peux faire la transformation. Je peux développer des produits auxquels quelqu'un d'ici n'aurait pas pensé, indique-t-il. L'objectif est de bâtir des entreprises prospères, de pouvoir donner aux consommateurs les meilleurs produits qui soient, de pouvoir employer des gens, dit-il. Se désunir des États-Unis? Kassim Doumbia estime qu'il y a urgence à agir, le potentiel des pays africains étant considérable et des pays tels que la Chine et les membres du G7 prenant déjà de l'avance sur le continent. S'il reconnaît que des efforts sont de plus en plus faits, le maire de Chipagan veut plus d'engagement dans les partenariats. Pierre-Marcel Desjardins fait pour sa part remarquer que les marathons et la construction des partenariats économiques sont similaires dans la mesure où les alliances de demain se travaillent sur le long terme et se construisent dès aujourd'hui. S'il pense irréaliste d'envisager de tourner complètement le dos aux États-Unis, il affirme que de continuer à dépendre à ce point du voisin du Sud ne peut se faire qu'au péril du Canada. Il ne faut pas considérer, ajoute-t-il, la présidence Trump et les soubresauts qui lui sont inhérents comme un simple astérisque de l'histoire, mais comme un repositionnement qui est en cours depuis des années déjà. Même si le président Trump n'est plus là, les éléments plus isolationnistes, plus nationalistes vont rester. Il faut accroître les liens commerciaux qu'on a avec d'autres régions du monde. Et ça, pour nous, c'est une question existentielle, conclut-il. C'était « Guerre tarifaire, l'Afrique, une alternative aux États-Unis » un texte de Nwemsi Njike, paru le 26 mars 2025 dans « Ici, Nouveau-Brunswick ».